Bonsoir à toutes et à tous, il est 17h et vous êtes en direct pour votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5. Alors, comme chaque mercredi, on aura les coups de cœur de Julien juste après, mais tout d'abord, on va dire bonjour à nos invités pour le festival Écoute Voir, qui sont du coup Francis Plisson et Sandra Cani, si je ne me trompe pas. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Et maintenant, je laisse la place à Julien pour sa chronique. Bonjour Julien.
Salut
et Alexandre.
Chloé.
Et Alexandre.
Oh, on n'a pas dit bonjour Alexandre. C'est pas bien ça.
Je suis méchant, désolé.
C'est pas gentil. Alors aujourd'hui, dans ma chronique, j'ai décidé de vous présenter des applications mobiles que j'ai trouvées vraiment intéressantes et que j'avais donc envie de vous présenter. Il va y en avoir 5. Donc elles sont toutes plus ou moins connues. Elles sont disponibles sur Android et iOS. Donc vous pourrez facilement les retrouver. Alors la première application, c'est une application de Google qui s'appelle Google Lens. Alors en fait, l'application a un concept très simple. C'est qu'à l'aide de l'appareil photo de votre smartphone, vous allez donc pouvoir faire des recherches Google. Donc cela peut être très intéressant dans certaines situations. Notamment, vous pouvez vous retrouver par exemple devant un monument ou dans un lieu que vous connaissez mais dont vous avez oublié le nom. Et bien simplement, grâce à une photo, vous allez retrouver ce monument sur Internet pour avoir de nombreuses informations. Et donc ça fonctionne pour beaucoup de situations. Également, si vous vous retrouvez à l'étranger et que vous avez besoin de traduire et bien quelque chose, un texte, un panneau, et bien vous pouvez le prendre en photo et ça peut vous être très utile et vous sauver la vie dans certaines situation. Également, par exemple, pour identifier des plantes, des animaux qu'on pourrait voir, pareil avec le système de photographie. Il y a plein d'autres situations que j'ai notées ici. Par exemple, un objet qui peut vous avoir plu, je ne sais pas, un vase, quelque chose comme ça, dans un restaurant. T'aimes bien les vases, je sais que t'aimes bien les plantes, Chloé.
Ah, ma passion, j'adore les vases.
Donc voilà, tu vois un magnifique vase et là, tu le prends en photo et sur Internet, tu vas pouvoir le retrouver et l'acheter chez toi.
Ou je le vole.
Donc l'acheter directement chez soi. Donc voilà, il y a de nombreuses utilisations. Donc l'application s'appelle Google Lens, si ça vous intéresse. La deuxième application s'appelle Yuka. C'est une application donc qui va vous permettre d'analyser les produits alimentaires que vous achetez selon leur composition. Alors l'application va vous indiquer la composition de votre produit avec ses qualités et ses défauts. Pour ce faire, vous n'aurez qu'à scanner le code barre de votre article avec votre smartphone et les informations vous seront instantanément transmises. Vous pourrez trouver comme information entre autres la présence ou non d'additifs, les graisses, le sucre, les calories, les protéines, les fibres, etc. Donc grâce à tout cela, l'application va donner une note sur 100 à votre produit. Donc soit le produit sera jugé comme excellent si la note est proche de 100, soit il sera jugé comme très mauvais s'il est proche de zéro. J'ai donc fait le test avec un produit très sain qui s'appelle les chips. J'avais rien d'autre sous la main, je suis désolé. Donc j'ai fait ça avec des Pringles que j'ai scanné, donc forcément la note était pas très élevée, 18 sur 100. C'est pas fantastique. L'application lui reprochait d'être trop calorique, d'avoir trop de sel et en plus de détenir des additifs qui sont présentés donc comme à éviter par l'application. Et donc en substitution, l'application propose d'autres produits. Comme par exemple ici, on m'a proposé des chips de la marque TAS qui elles sont notées 75 sur 100 car elles ne présentent pas toutes ces anomalies. Cela fonctionne aussi avec tous les produits alimentaires que vous pourrez scanner. Ça fonctionne aussi avec des produits de beauté, par exemple, vous pourrez comparer tout ce qui est présent à l'intérieur et connaître si elle contient des additifs ou des produits qui peuvent être jugés comme dangereux parfois. Donc ça peut être intéressant. Il est important de préciser aussi que cette application est 100% indépendante, ce qui fait que elle peut émettre un avis juste et qui lui ressemble sans aucun intérêt commercial. Il n'y a pas de pub sur l'application, donc c'est vraiment neutre, ce qui permet d'avoir un avis qui n'est pas biaisé. La troisième application est quand même un peu plus connue, mais je trouvais, enfin, c'est important pour moi d'en parler parce qu'elle s'appelle Vinted. Alors, est-ce que peut-être que dans le studio vous connaissez Chloé, t'as crié. Donc l'application Vinted, qui est donc une application de vente de particulier à particulier, qui ressemble un petit peu au Bon Coin, qui est un petit peu plus connu, sauf que l'intérêt de Vinted, c'est que c'est uniquement des achats de vêtements, de chaussures, voire d'accessoires. Et donc pour faciliter, en fait, cette application est très bien parce que tout ce qui se passe, enfin toutes les transactions vont se faire directement dans l'application pour que tout soit facilité. Vous allez donc être sur l'application, vous allez rechercher ce qui vous intéresse, vous allez vous balader dans l'application et quand vous aurez trouvé votre coup de cœur, vous allez pouvoir envoyer par exemple un message au vendeur pour savoir des informations sur ce produit, peut-être connaître son état, etc. Et ce qui est pratique, c'est que la messagerie est directement dans l'application, ce qui va éviter de transmettre son numéro de téléphone par exemple, ce qu'on n'a pas forcément toujours envie de faire. Donc la messagerie va être directement dans l'application, ça va faciliter les choses. Et c'est la même chose pour le paiement. qui ne va, donc ça va pas être un échange en liquide qu'on va devoir faire main à la main, etc. Ça va être fait de façon sécurisée sur l'application, et également la même chose donc pour l'envoi qui va être, vous allez choisir l'envoi depuis l'application, ça va pas, vous n'allez pas avoir besoin de vous retrouver avec le vendeur pour échanger les produits contre l'argent. Vous allez simplement choisir un mode pour recevoir ce que vous préférez, par exemple en point relais ou alors directement chez vous, et donc le vendeur sera alerté une fois que vous aurez acheté le produit pour tout simplement vous l'envoyer, et ça va donc sécuriser tout ça. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, ce système de sécurité, ce système qui permet de ne pas avoir à faire donc passer forcément de l'argent de main à main. Ça peut être un peu plus compliqué, puis ça permet aussi d'acheter des vêtements beaucoup plus loin qu'à côté de chez soi, donc ça peut offrir une plus grande diversité également. La quatrième application s'appelle Yazio. Yazio, donc c'est une application de remise en forme, donc une application assez basique, mais j'ai trouvé qu'elle était bien, vraiment poussée, et qui a rentré vraiment bien dans, qui avait beaucoup de choses à faire en fait avec cette application. Elle est donc gratuite, il y a une version payante qui rajoute plus de choses, comme par exemple un coaching, etc., ce qui peut être intéressant, mais déjà la version gratuite de cette application est très intéressante. Déjà, vous allez pouvoir renseigner les repas que vous prenez chaque jour, et donc ça va compter les calories que vous allez prendre, ce qui va donc vous permettre de vous rendre compte si vous mangez trop, pas assez, etc. Ça dépend aussi de ce que vous voulez faire, si vous voulez prendre du poids, perdre du poids, tout ça c'est à renseigner dans l'application, ainsi que votre objectif. Une fois que tout cela sera fait, vous allez donc noter ce qui vous intéresse, et vous allez avoir plein de choses dans l'application, notamment des recettes pour vous aider à peut-être mieux manger. L'application va aussi compter le nombre de pas que vous faites chaque jour pour vous dire si vous ne bougez pas assez. Il y a vraiment beaucoup de choses de présentes dans cette application. On peut aussi compter combien on boit d'eau pour boire assez d'eau, parce que c'est important de boire de l'eau. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans cette application qui sont pas mal. Dernière application qui s'appelle Geisel Know. Quel accent anglais, qui est donc une application qui va vous permettre de tout simplement trouver de l'essence. Alors comme ça, on peut trouver ça assez basique, mais en fait, l'application est aussi assez poussée et vraiment intéressante. Dans le sens où vous allez renseigner votre véhicule, le type de carburant dont vous avez besoin sur l'application, et elle va vous le géolocaliser donc sur la carte. Ça va permettre quoi ? Ça va permettre de vous montrer toutes les stations-service à proximité de chez vous, mais aussi de vous donner le prix de l'essence dans chacune des stations-service. Cela va donc vous permettre d'aller dans une station-service où le prix sera peut-être plus bas. Quand c'est proche de chez soi, c'est pas forcément très utile, mais par exemple, si on est en déplacement ou alors en voyage, en vacances, on connaît pas les stations-service autour de nous, on sait pas laquelle est la plus intéressante ou quoi. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant aussi, un moyen sympa de trouver de l'essence moins cher, parce que mine de rien, ça représente quand même un budget. Donc j'ai trouvé cette application intéressante, il y a énormément d'informations sur les différentes stations-service, sur les horaires d'ouverture, les services de disponibles, etc. Donc une application que je pense tout le monde devrait avoir dans son téléphone pour faire quelques économies, ça peut être intéressant. Donc voilà, je vous ai fait une liste de 5 applications que je trouvais sympas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, peut-être qu'il y en a certaines qui vous ont intéressé. Et puis voilà, c'est la fin de la chronique des coups de cœur de Julien, et puis on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle chronique.
Merci Julien, et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Chloé, salut.
Eh bien, pour faire levier avec nos invités d'après, je vous propose à l'écoute Niels Barclay. La chanson s'appelle Who's Gonna Save My Soul. Got some bad news this morning, which in turn made my day. When this someone spoke, I listened. All of a sudden has less and less to say. Oh, how could this be? When all this time I've lived vicariously. Who's gonna save my soul? Somebody else, although he was imitated often, felt like I was being myself.
someone else's song was totally and completely dependent on. Who's gonna save my soul now? Who's gonna save my soul now? I wonder if I live to grow old now. Getting high cause I feel so low. Was it possible you were hurting worse than me? Still my hunger turns to greed. Cause what about what I need? Oh, who's gonna save my soul?
Et vous êtes toujours en direct de votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5. Et on va tout de suite passer maintenant à nos invités avec qui nous sommes venus, enfin qui sont venus parler du festival Écoute Voir qui se déroulera le 16 et 17 et 18 janvier. Tout d'abord, on va peut-être les présenter. Donc nous avons Francis Plisson qui est directeur artistique de la compagnie Marouchka, si je ne me trompe pas. Et le programmateur du festival est Sandra Cani, qui est directrice et programmatrice à la Pléiade. C'est ça.
C'est bien ça.
Tout à fait.
Alors, est-ce que Francis, vous pouvez par exemple nous présenter votre compagnie tout d'abord ?
Marouchka ?
Oui.
Marouchka, c'est une compagnie que j'ai créée il y a 20 ans maintenant, déjà, pour accompagner mon travail. Personnellement, parce qu'à la base, en fait, je suis danseur, musicien et chorégraphe. Et je suis venu m'installer à Tours il y a 20 ans. Du coup, c'est Marouchka. J'ai principalement travaillé sur les rapports entre le corps et le son. Donc, c'est des recherches d'écriture en forme ouverte, ce qu'on appelle. Donc ça, c'est un peu Marouchka. Et puis, c'est vrai qu'il y a 10 ans, j'ai eu une espèce de désir d'élargir. En fait, je me contentais plus en fait, d'un carcan... comme ça, juste dans l'écriture ou juste dans l'interprète, j'avais besoin d'autre chose. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur des projets divers. Ça va aussi avec la création d'une boîte de production qui est un accompagnement des jeunes artistes et la création du festival. Donc voilà.
D'accord. Donc vous êtes programmateur depuis le début sur le festival.
Je suis programmateur depuis le début. Oui, je suis à l'initiative. En fait, c'est une longue histoire d'amour, on va dire, entre le petit faucheux... et mon propre travail, parce qu'ils ont en fait coproduit la plupart de mes travaux depuis le départ. C'est même eux qui m'ont fait venir à Tours la première fois. Et ensuite, j'ai fait ma première résidence de création à la Pléiade, d'ailleurs. C'était il y a quelques temps. Ils ont coproduit l'ensemble des travaux. Et sur la dernière année, enfin l'année qui a précédé la création du festival, j'ai été artiste associé sur un ensemble de performances que j'ai produites pendant tous les mois. Et en fait, ça marchait super bien. Le petit faucheux m'a dit, écoute, on aimerait bien que ça continue, mais moi, j'avais plus de budget de production derrière. Et en fait, je me suis dit, j'aimerais bien faire proposer quelque chose, mais que je ne sois pas autour de mon propre travail, mais qui, quelque part, soit dans une ligne, dans cette ligne-là, en tout cas. Donc, voilà comment c'est parti.
D'accord. Et du coup, vous, Sandra, donc directrice et programmatrice à la Pléiade, donc peut-être rappeler qu'est-ce que c'est la Pléiade tout d'abord.
Alors la Pléiade, c'est un théâtre à La Riche, donc un théâtre municipal avec une programmation pluridisciplinaire et on a la chance de collaborer avec d'autres structures ou festivals au sein de la métropole. Et donc le festival Écoute-Voix en fait partie.
D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes directrice là-bas ?
Ça fait 5 ans et demi maintenant.
D'accord. Et bah du coup, pour avoir un peu teasé ce festival, maintenant on va y passer. Donc la grande question, qu'est-ce que le festival Écoute-Voix ?
Ah, justement. Est-ce qu'on a besoin de dire toujours ce que c'est ?
Exactement. Pas forcément.
Non, parce qu'en fait, je pense que le festival, justement, c'est d'essayer de trouver un interstice dans ce que pourrait être un entre-deux. Et donc, du coup, le pas clairement définissable.
Non, mais c'est tout aussi intéressant de ne pas forcément avoir de définition à donner. Indirectement, c'en est une aussi.
Non, mais parce que tout à l'heure, on parlait des applications tout à l'heure. Donc, du coup, c'est mettre une définition sur chaque chose, expliquer sur chaque chose. Alors que je pense que, du coup, il y a quand même tout un espace qui existe entre deux choses qui sont difficilement, justement, qu'on a du mal, on a du mal à dire c'est ça, ou c'est ça, ou ça ressemble plus à ça. Et en fait, c'est un peu l'espace que j'avais envie d'exploiter dans le festival. Donc, du coup, retrouver des propositions qui soient dans ça. Donc, parfois plus proches d'un bord que de l'autre, mais de toujours, en tout cas, envisager ces propositions dans des espaces d'entre deux.
D'accord. Et du coup, donc vous avez dit qu'il existe depuis 10 ans. Et en moyenne, vous vous rassemblez combien de personnes, combien de spectateurs ?
Alors là, c'est pas trop. Non, c'est pas l'année dernière, je crois qu'on était à 2000 spectateurs. Donc là, ça fait 3 ans où on a 100% de remplissage. L'année dernière, on est descendu à 98%. Mais donc ça va, ça fonctionne plutôt bien. Ce qui est assez intéressant avec le festival, c'est que du coup, effectivement, c'est plein de propositions que les gens n'ont pas forcément la référence, ou c'est pas forcément des noms, on va dire, des noms très grand public. Je mets des parenthèses avec ça, parce que c'est relatif, la notion d'être connu ou pas connu. Et du coup, des gens prennent un pass, et voient l'ensemble des propositions. C'est-à-dire que non, finalement, le festival a petit à petit développé sa propre identité.
Un festival découverte. Du coup,
on ne va pas voir forcément un artiste du festival, on va au festival Écoute-Voix. Et ça, je ne l'ai pas fait exprès. Ça s'est fait un peu naturellement, et dans ça, je suis assez content de ça. Donc effectivement, aujourd'hui, je passais pas mal de temps à la caisse, il y a pas mal de gens qui sont venus acheter des billets, ils ont tous pris plusieurs spectacles, quoi. Au minimum 4, 5, voilà. Donc voilà.
Donc vraiment un festival de découverte, en somme.
De découverte avec même des artistes à l'intérieur qui ont un petit peu connu. Quoi,
oui, mais pour la
c'est
plupart.
C'est pas que de la découverte comme ça. Après, tout ça dépend où on se place. La notion de découverte, c'est aussi pareil. Ça dépend où on se place.
D'accord. Parce que justement, pour revenir à ce que vous disiez, donc l'inclassable, pourquoi avoir choisi cette catégorie, encore une fois, avec les guillemets ? Parce que justement, vous rejetez cette idée de catégorie. Et pourquoi ?
Ben, ça vient de mon propre nombril, voilà, comme tout le monde. En fait, moi, ça m'a énervé toujours, parce que comme j'étais danseur et musicien, et puis après chorégraphe, alors on me disait, alors, mais vous êtes danseur. Oui, je suis aussi musicien. Non, mais alors, vous êtes musicien. Mais non, je suis aussi danseur. Et alors, du coup, on avait besoin absolument que je définisse. On m'a même obligé, en fait. Du coup, je suis un danseur épanoui et un musicien frustré. et en fait, c'est une blessure comme ça, une faille que j'ai eue quand j'étais enfant, parce qu'on m'a obligé de choisir dans mon cursus de formation. Et en fait, je me suis dit, j'ai lu un livre de Michel Néra, comme ça, de Frédéric Néra, pardon, qui parlait que de l'exploitation de la faille. Et je me suis dit, je vais exploiter ma faille.
D'accord. Et du coup, en fait, c'est un peu le lien entre tous les spectacles, le fait de ne pas pouvoir les définir, en somme.
Oui, c'est un peu ça. Après, on peut quand même rentrer un peu plus dans les détails. En fait, si on rentre un peu dans le détail de cette année, en fait, j'ai comme c'était les 10 ans, voilà. En 10 ans, c'est un peu symbolique. Il n'y avait pas plus d'argent pour programmer beaucoup plus de spectacles. J'avais la même somme. Mais je me suis dit, je suis revenu un peu en arrière et je me suis dit, qu'est-ce que sont à l'intérieur justement de cette relation entre le corps et le son. Quelles sont les tendances. Donc finalement, j'ai un peu séparé en 3 jours. Donc il y a une journée qui est plus sur un rapport entre le corps et le texte. Comment le corps dansant ou moins dansant va avoir un rapport au texte sur un plateau, dans un rapport à la représentation. Ça c'est le jeudi soir. Le vendredi soir, on est plus sur un rapport vraiment entre, du coup, musicien et son propre corps, ou musicien et un rapport à un corps extérieur, donc avec deux propositions, hein, celle d'Isabelle Dutoit, puis celle de Jean-Luc Guillonnet le Tucette Coury, et le samedi sur un rapport à un corps performatif. Voilà, donc c'est un peu divisé dans ces trois choses. Après, effectivement, ce sont tous des artistes qui sont difficilement classables, avec Matt Vaxton qui passe le jeudi soir par exemple, qui a fait des études de philosophie, mais qui a aussi fait des études de danse, qui du coup a un rapport à la philosophie, donc elle, qui est différente, mais elle-même ne s'identifie pas vraiment clairement comme chorégraphe. Ou Pierre Ponviane, qui est aussi musicien, qui passe à la Pléiade le jeudi soir. Voilà, on a Jean-Luc Guillonnet, qui est un musicien vendredi soir, qui est plasticien à la base. Et après, du coup, de l'art plastique, il est venu vers ce qu'on appelle le plasticien sonore, et puis de ça à la pratique musicale. Donc on n'est que sur des artistes, effectivement, qui sont à cheval dans leur discipline. Après, on parle toujours, du coup, une discipline, ça va être c'est associé à une technique. Mais je pense que si quelqu'un a vraiment une expression artistique à l'intérieur, parfois que cet artiste-là exploite justement une technique qui n'est pas la sienne, et qu'est-ce qu'il en fait ? Et c'est là, du coup, parfois, vont naître des formes, on va dire, novatrices ou plus intéressantes. En fait, c'est un peu ça qui est recherché dans la programmation.
D'accord. Et du coup, est-ce que pour les 10 ans, vous avez senti une évolution au sein même de ce festival ?
Oui, ouais, non, ça c'est clair. Ouais. De l'évolution du festival et de moi même aussi par rapport au sein même du festival. Au début, j'étais finalement dans une chose relativement simple. C'est quoi, des propositions qui rassemblaient sur un plateau des musiciens et des danseurs et qui allaient chercher des différents types ou modes d'exploitation de cette relation. Donc au début, je partais sur un truc, voilà, juste assez simple comme ça. Et finalement, plus j'ai travaillé cette question, et plus les années ont passé, c'est pas la première année qui est difficile à programmer un festival. La première année, on a plein de gens, on en connaît, on a les potes, on a ceux qu'on a revus, etc. Mais après, quand on évolue, c'est là où il faut commencer à aller un peu plus fouiner, et puis se poser la question, qu'est-ce que je programme ? Pourquoi je le programme ? Hein ? Et est-ce que je suis capable de justifier ce que je programme ?
D'accord.
Voilà, donc ça c'est Bernard Stiegler qui revendique ça. Il dit que chaque programmateur doit pouvoir justifier de sa programmation, quelle que soit la raison.
D'accord. Et bien justement, on va revenir au programme juste après une petite pause musicale pour vraiment évoquer jour après jour ce qui va pouvoir se passer, ce que vous allez pouvoir retrouver lors de ce festival du coup du 16, 17 et 18 janvier.
Et oui, l'artiste s'appelle Sia, la chanson Snowman.
Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A puddle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby, I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on. The North Pole and you'll have a
Vous êtes toujours en direct de votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5 et nous sommes toujours avec nos invités Francis et Sandra pour le festival Écoute de voix qui se passera les 16, 17 et 18 janvier. Donc on va pouvoir revenir un peu maintenant sur tout ce qui est la programmation parce qu'il y a un petit plus, c'est qu'il ne démarre pas exactement le 16, mais de ce que j'ai pu voir sur l'agenda, c'est qu'il y a une soirée mise en bouche le 11, c'est ça ?
Comment ?
J'ai vu qu'il y avait une première soirée le 11 janvier.
Oui, c'est ça, ouais. Bah, parce que c'était les 10 ans, donc c'est, j'espère qu'ils vont me faire un gâteau d'ailleurs. Parce que quand même, ils me doivent ça, moi. Déjà, j'ai mon tutu d'or, déjà, le plus faucheux, c'est-à-dire que je suis le danseur qui a le plus dansé sur le plateau. Donc là, j'espère avoir le gâteau d'anniversaire. Non, c'est une soirée un peu d'ouverture pour nos partenaires, déjà. Ça me permet aussi de pouvoir présenter la programmation, poursuivre ce que je pouvais dire tout à l'heure, peut-être de pouvoir la proposer en détail, de rentrer un peu en détail comme ça, un peu comme on fait une ouverture de saison dans un théâtre. De proposer une performance surprise, voilà, j'aime bien la surprise, donc et puis de boire un coup.
Oui, c'est,
voilà.
C'est toujours plus convivial.
Ouais, et puis il y a une expo aussi dans le hall. Voilà, mais c'est gratuit, donc vous pouvez venir avec plaisir, partager ce moment-là, et puis si effectivement, j'ai un peu cette question sur le festival, c'est-à-dire qu'on me pose la question, mais alors voilà, je voudrais voir un spectacle, lequel choisit ? Alors, demander ça à moi, le programme et l'ensemble, c'est un peu difficile, c'est comme si je disais, bah, celui-là c'est mieux que l'autre, donc c'est un peu compliqué, donc je préfère dans ces cas-là rentrer dans les détails, et puis que les gens... Bah, après, bah, ils ont une chance sur deux, de toute façon, ils se plantent, ou alors... et puis même la notion de se planter, des fois, vous savez, on déteste un truc à un moment, et puis finalement, 10 ans après, on se dit, oh, putain, c'était super bien, en fait.
Parce que ça a marqué dans tous
voilà.
les cas.
Donc voilà.
Et du coup, le 16 janvier, qu'est-ce que vous proposez ?
Le 16 janvier. Le 16 janvier, ça commence au CCNT, avec une artiste danoise qui s'appelle Mette Envakstone. Hein, c'est un peu difficile à dire, qui présente un spectacle qui s'appelle 21 pornographies.
Très guicheur, c'est un peu étonnant.
C'est un peu guicheur. D'ailleurs, elle-même, il y a justement un article qui vient de sortir dans la revue Mouvement, là, sur Met, et elle a demandé aux journalistes, est-ce que vous pourriez ne pas mettre sexe dans le titre ? Parce que du coup, comme elle a fait un travail d'un ensemble de 4 pièces autour de la pornographie et de la sexualité, au sens large, au sens peut-être sadien, c'est-à-dire d'un coup dans son rapport aussi à la philosophie, et du coup elle pose surtout la question, est-ce que nous vivons actuellement dans une société pornographique, pornographie politique, pornographie comme ça, la pornographie c'est pas seulement le sexe.
Oui.
Et que parfois, voilà, en tout cas elle pose cette question-là. Elle s'appuie sur un roman dans ce spectacle-là, dans 21 pornographies de Sade, qui s'appelle La philosophie dans le boudoir, donc, je sais pas, qu'on aborde en philo. Voilà. C'est vraiment un très très chouette spectacle. Et dans son rapport au texte en plus, donc c'est un peu une espèce de woman show. Comme ça. Vous avez pu voir que c'est interdit au moins de 18 ans.
Oui.
Voilà, donc c'est interdit au moins de 18 ans parce qu'il y a du propos. Il y a certains propos, voilà, qu'il faut avoir une certaine maturité pour ne pas les prendre au premier degré. Il y a quelques actes que je ne veux pas dévoiler, comme ça, qu'il faut avoir un poil de recul. Mais si vous attendez à avoir un spectacle de sexe, c'est mort. Hein.
Et puis, ce n'est pas le but. C'est...
Mais par contre, on va beaucoup en parler. Voilà. Après, on enchaîne avec un spectacle à la Pléiade de Pierre Panviane. Et donc là du coup on est complètement ailleurs, quoique pas complètement, c'est un spectacle qui est sur un texte de David Mambouche, c'est le fils de Maggie Marin, donc on a pu voir un film qui est donc écrivain, acteur, aussi réalisateur, qui a fait un très très beau film sur sa mère, qui s'appelle L'urgence d'agir, qui est d'accord en train d'être primé un peu partout, qui est passé à Tours l'année dernière, celui-là a eu la chance de le voir. Qui est un jeune garçon très très engagé, c'est un très très beau texte. Et là il y a un rapport, et Pierre lui est musicien et danseur, et on a une écriture chorégraphique d'une subtilité, d'une intelligence, vraiment c'est une merveilleuse écriture chorégraphique, vraiment je trouve que c'est vraiment de la dentelle. Hein, on pourrait parler d'une espèce de dentelle d'écriture. C'est une pièce pour alors là, autant sur Met, on est sur un solo. Là, ils sont 7 interprètes sur le plateau. Et il y a ce rapport à ce texte-là. Donc le texte est parfois utilisé comme musique et même va vous mettre dans une espèce de situation. À un moment donné, c'est même presque too much, où il faut presque faire un choix entre j'écoute le texte ou je regarde la danse. Et il y a une espèce de combat et ça, je trouve ça très 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 intéressant. Donc c'est une belle fresque.
D'accord. Et
voilà, à la Pléiade.
À 21h.
À 21h. Donc on est là, ce que j'ai dit tout à l'heure, sur vraiment deux rapports très très différents aux mots et au corps. Le vendredi.
On commence du coup, de ce que je vois, à 19h, à la salle capitulaire des Celliers Saint-Julien.
Voilà, tout à fait. Donc là, on est avec Isabelle Dutoit. Isabelle Dutoit, c'est l'artiste qu'on accompagne. Chaque année, on accompagne un artiste sur un projet de création. Donc là, c'est un projet de création. Isabelle Dutoit, elle est vocaliste. Donc peut-être, il y a plein de gens qui ne savent pas trop ce que ça veut dire vocaliste. Vocaliste, oui. Donc c'est proche, elle va utiliser la voix, donc proche du chant, mais... ça vient un peu de tout le mouvement lettriste, etc. Donc on va être plus l'ordre du les vocalistes, c'est ce qu'on a utilisé par exemple pour les bruitages, les bruitages qu'on va faire à la voix pour une illustration sonore d'un film, etc. Donc on va utiliser la voix différemment, on va pas forcément chanter Così fan tutti, mais elle est clarinettiste. C'est une femme qui fait toutes ses études à Tours, d'ailleurs elle est clarinettiste à la base, qui a découvert la voix plus tard. C'est vraiment quelqu'un qui a du coup une chose tellement particulière, du coup, alors qu'elle, qui est du coup une artiste dans son milieu, en tout cas très reconnue, qui tourne vraiment, tourne autour de la planète tout le temps, travaille principalement à l'improvisation. Voilà. Là, c'est la première fois où elle assume une chose vraiment seule. Donc, elle joue avec le plus grand musicien. Il y a tout un portrait d'elle que vous pouvez retrouver en podcast, par exemple, sur France Musique, sur cette émission fabuleuse qui s'appelle À l'improviste, qui est au milieu de la nuit. Mais qui est une émission radio, hein, qui est un très très long portrait d'Isabelle avec beaucoup d'extraits. Et là, Isabelle, finalement, elle s'est d'un seul coup posé la question de la partition, parce que c'est avant tout une improvisatrice. Donc c'est quoi la partition pour une improvisatrice? Et elle a commencé à travailler, suite à une résidence qu'elle a faite à la Villa Kuroyama au Japon, à travailler sur un journal intime. Et comme c'est quelqu'un qui tourne beaucoup, donc un journal intime qui comprenait un autoportrait fait avec son ordinateur, une photo du paysage, là où elle était, et un dessin sur du papier japonais en rouleau. Et elle a fait ça chaque jour. Donc c'est une espèce de discipline comme ça, donc du coup qui devient comme un journal intime finalement. Et les photos sont même d'ailleurs très 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 intimes. Et elle s'est obligée. Du coup, elle a vraiment tenu. Elle est partie le 1er janvier 2018 et elle s'est arrêtée au 31 janvier 2018. Et après, elle s'est retrouvée avec tout ça. Et du coup, tout ça, elle a commencé, du coup, pareil, comme j'expliquais tout à l'heure, à travailler sur une installation de ces dessins, donc qui sont des grandes bandes comme ça. C'est... Et du coup, le choix de ces photos, qui sont quand même des photos d'elle tout le temps, donc pour repenser justement. Et après, on y trouve justement cette espèce d'universalité, du coup, du journal intime. C'est comme quand on lit le journal intime d'Anaïs Nin, vous voyez. Donc, quelqu'un va te raconter d'une manière intime et on va se reconnaître dans cette intimité. Donc ça, je trouve ça très fort. Et finalement, après, elle évolue dans cette installation, donc extrêmement plastique, avec sa voix. Et du coup, c'est là où c'est comme si elle-même revient sur tous ces instants qui lui ont servi de partition, finalement, dans l'instant. Et du coup, il y a un recul. C'est comme le besoin de... C'est que le rapport à la trace d'un improvisateur. C'est en fait, on pense toujours qu'un improvisateur, où il se pointe, tac, tac, il ne sait pas ce qu'il fait. En fait, il sait toujours ce qu'il fait. C'est toujours très très lié à son état. Donc c'est aussi une condition. C'est aller chercher des choses dans l'intime très fort pour être disposé à écouter le présent. Et donc voilà, du coup, moi j'ai assisté au dernier filage. C'est vraiment quelque chose. Ça fait très 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 longtemps que j'avais pas eu les poils des bras. Vous savez, les poils des bras comme ça qui remontent là.
Ça a l'air.
C'est bon ça. Donc voilà, donc Isabelle, c'est ça. C'est, en plus, c'est dans le. Il y a ce rapport justement dans la salle capitulaire. La capitulaire, c'est une salle qui servait avant, du coup, là où on discutait les problèmes de la communauté. Il y a une très très belle acoustique pour, en tout cas pour une voix seule. Si on pointe avec trois guitares électriques, ça va être un peu plus problématique, mais pour la voix seule, c'est parfait. Le cadre est très 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 beau, et donc voilà, ça je conseille. Il faut se dépêcher, ça, parce que c'est presque plein.
D'accord.
Et après, on enchaîne avec notre proposition au Petit Faucheux, qui est du coup Jean-Luc Guillonnet, qui est du coup plasticien sonore, dans un duo avec sa compagne, qui est d'origine libanaise, qui s'appelle Lotus Ed Khoury. Là, du coup, on a vraiment, on va dire, un musicien plasticien d'un côté et une danseuse de l'autre. Et c'est un couple. Ils sont un couple dans la vie aussi. Et du coup, on a cette espèce de coup de rapport tout le temps. Il y a aussi un assez grand rapport à l'improvisation, c'est-à-dire c'est une pièce qui recrée chaque fois in situ, donc qui a un certain nombre de matériaux, ce qu'on appelle, mais qui vont être agencés différemment suivant la situation. Et on est dans une relation effectivement musique-danse, mais aussi couple. Et donc du coup, c'est pour ça que ça s'appelle aussi Reciprocal Score. Donc il y a des fois où on est dans une osmose, des fois dans du partage, des fois dans une opposition, des fois dans une espèce de guerre. Et donc voilà, donc on vit ça. C'est voilà, c'est une belle proposition. C'est vraiment c'est deux artistes très très intéressants. C'est par contre, alors c'est pas une musique forcément facile pour les oreilles, parce que on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ce genre de musique. On entend peu à la radio, mais à la fois c'est une musique qui est aussi difficilement écoutable à la radio sans avoir est-ce qu'on s'associe avec la vue. Et donc c'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'est le vendredi.
Et bah, du coup là on passe au samedi, où là il y a quand même, c'est là que je vois où il y a le plus de spectacles différents, parce qu'ils sont pratiquement tous à deux séances,
ouais.
Ce que je vois.
Ouais, ça c'est un petit peu ça fait choix, ouais, à peu près 5 ans qu'on a commencé à développer ça dans le festival, c'est-à-dire que le samedi c'est des propositions courtes qui sont des propositions qui vont de 20 minutes à 1 heure, il y en a quand même une là qui fait 1 heure, et qui sont proposées 2 fois, dans des lieux plus ou moins atypiques. C'est des rapports, du coup tout à l'heure je parlais du rapport à la performance, donc c'est des rapports très performatifs, et on attaque là à 13h30 dans le hall de l'Olympia avec un artiste, alors là effectivement complètement inclassable, il est déjà inclassable dans son propre corps, il mesure 2 mètres, il est assez androgyne, mais quand même très masculin. Et il est là avec un percussionniste. Il est brésilien, Volmière. Et il avait créé spectacle au Louvre, qui a été repris après au FIAC à Paris. C'est un spectacle qui s'appelle Rue. Forcément, c'est un artiste brésilien qui est porté par toute la culture brésilienne. Et du coup, ça pourrait être grave. Et à la fois, c'est décadent, à la fois, c'est drôle. Je pense que même si on n'aime pas toujours les matériaux même qu'il va nous proposer, en tout cas la performance de voir cet artiste là en réel, hein, parce qu'il est près de nous, c'est dans le hall de l'Olympia, donc on est vraiment dans un rapport de grande proximité, et il vous embarque comme ça pendant 1 heure, et tiens, voilà, donc ne serait-ce que le voir, juste de le voir, moi voilà, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est Volmer. Ça danse, ça danse la samba parfois, après voilà, ça grimace, ça fait le travelot parfois, parfois ça fait le, voilà, on passe partout. Il a un percussionniste brésilien super puissant, donc voilà, et du coup c'est vraiment un jeu avec le public, il raconte une espèce d'histoire comme ça d'un parcours, c'est vraiment intéressant.
Donc ça, du coup, c'est à 13h30 et 19h dans le hall du
Théâtre Olympia. Après, on a une autre artiste flamande qui s'appelle Karin Vinke. Donc ça, c'est un spectacle que j'ai vu. Karin Vinke, elle aussi, on parlait tout à l'heure de Maggie Marin, c'est une ancienne danseuse de Maggie Marin. C'est pas une jeune artiste. Elle n'a pas son déambulateur encore, hein, ça va. Mais elle, du coup, elle fait un spectacle complètement dans le silence. C'est une proposition qui dure 20 minutes. C'est on va dire presque pour rappeler de l'art pauvre, c'est-à-dire qu'avec très peu de choses, elle a des petits bouts de papier, etc. Et dans le mur, elle a vraiment sur la notion de nature morte. Et en fait, juste avec des mots comme ça qu'elle positionne et comment elle se positionne à l'intérieur d'une série de tableaux, elle nous raconte toute une histoire. Mais toute une histoire, du coup, où pareil, on a voilà, c'est que des installations successives, c'est très rythmé, c'est là que ça prend comme. Et en fait, on voyage à l'intérieur, on se fabrique. C'est un peu. Il y a presque un rapport à la BD, par exemple.
C'est, oui, voilà, je vois, il y a
comme ça, et c'est, du coup, ces bulles, c'est des mots qu'elle installe, et elle les installe dans différents endroits autour de sa table, etc. Elle les enchaîne. Elle est très, avec ce côté flamand, un peu comme ça, de femme. Elle est aussi un grand format. C'est pas une petite fille. Et du coup, ça contribue comme ça. Et ça va avoir lieu dans le Salon de Diane. Je sais pas si vous connaissez le Salon de Diane au Musée des Beaux-Arts. Donc, avec justement des natures mortes, avec Diane Chasseresse, qui est là, la statue en gros, comme ça. Donc je vais être impatient de le voir là. C'est un spectacle que j'ai vu dans une grange, dans un festival en Bretagne, où j'ai adoré. Voilà, c'est une proposition courte, mais voilà, pareil, c'est plutôt c'est léger et à la fois c'est grave. Mais à voir.
Du coup, c'est à 14h30 et 16h30 au Musée des Beaux-Arts.
Voilà, super, c'est bien, vous vous assurez super bien pour rappeler les horaires.
Hein. Ah bah, j'essaye. Il y a du monde et que tout est très disparate et que du coup, tout est différent pour essayer de suivre. Et pour essayer de justement, pour que les auditeurs puissent savoir où retrouver et où aller au moment venu.
Voilà, et après, là, on a une autre proposition. Alors là, du coup, c'est une proposition qui a eu lieu qu'une fois. C'est une proposition d'Eddie Ladoire. Eddie Ladoire, c'est un musicien spécialiste dans le traitement sonore qui est un petit peu connu à tous. Il travaille régulièrement avec le temps machine. Il enseigne aussi à l'université sur la conception d'applications, justement, pour du traitement sonore ou des choses comme ça. Un excellent musicien. Et alors, il a travaillé avec des boxeurs, donc là, il a fallu que je trouve des boxeurs à tour professionnels. J'avais jamais vu un match de boxe de ma vie, donc j'ai trouvé des boxeurs professionnels qui vont venir. Donc, ils sont trois boxeurs professionnels, et en fait, on va assister donc ça joue deux fois, c'est pour ça qu'il y en a trois, mais on assiste à un match de boxe. Donc c'est nécessaire que ça soit des vrais, c'est pas une démo de boxe,
D'accord. C'est
un vrai match, comme ça, sauf que les gants sont sonorisés et les casques sont sonorisés.
Ouais,
et du coup, parfois, ils sonorisent le sol. Donc là, ça va avoir lieu à Salle Okogem, il travaille deux jours à l'intérieur pour voir comment il va travailler, et après il traite musicalement dans l'espace, du coup, tous les sons. Donc il travaille avec des industries qui s'appellent MaxSP, comme ça, qui retravaille à la granule de son. Donc ça va nous permettre de composer en direct sur tout ce qui va se passer. Et nous, on est quand même dans du visuel et dans un match de boxe. Donc j'ai trouvé super intéressant de programmer ce spectacle, mis à part tout l'intérêt sonore que ça. Déjà d'amener de la vraie boxe et pas une transposition d'un match de boxe à la Rocky ou je sais pas quoi, où on pourrait, voilà, avec les gros clichés de la boxe. Là, c'est des vrais boxeurs. Ils vont travailler juste une journée avec eux et lui, il leur demande de vraiment boxer. Donc de faire ce qu'ils savent vraiment faire, et nous on va être autour. Je pense que justement dans le public du spectacle vivant, il y a énormément de gens qui sont comme moi, qui sont jamais rentrés dans un... Sandra, t'es déjà voir un match de boxe?
Non, jamais.
Et vous avez vu un match de boxe? Donc voilà, donc je pense qu'il y a plein de gens qui vont voir des spectacles vivants ou écouter des concerts, qui sont jamais rentrés dans une salle de boxe. Donc voilà, donc là c'est l'occasion, c'est un peu transposé, mais pas tant que ça. Donc je sais pas trop non plus, parce que c'est une proposition. Il avait fait avec un match de rugby en Suisse, à Genève, où il avait sonorisé du coup tous les joueurs avec des systèmes de micro HF, etc., pour retraiter. Donc ça. Donc voilà, Eddie, c'est un garçon comme ça qui a plein d'expérience et du coup qui a effectivement un rapport avec les sportifs intéressant.
Du coup, ce sera 15h30 et 17h30 à la salle Hockey Game.
Voilà.
Puis après, on revient à 18h à la salle capitulaire d'Esselier, Saint-Julien.
Pour revoir Isabelle, parce que ça jouait deux fois. Parce que ça, c'est une histoire de jauge, il fallait que ça jouait deux fois. Mais Isabelle, la jauge, c'est que 70 personnes au Esselier Saint-Julien, ce qui n'est pas beaucoup. Et du coup, on se joue deux fois. Mais ça, parce que Isabelle, elle rentre un peu dans les deux cases. On va dire qu'elle est vraiment une musicienne purement, mais elle est aussi quand même une vraie performeuse.
Et on termine à 21h au Petit Foucheux.
Avec Simon Meyer. Alors Simon Meyer, c'est un jeune artiste autrichien qui a un parcours complètement étonnant. C'est-à-dire qu'il a fait des études. Il vient de la montagne. Ses parents étaient bûcherons. Il vient vraiment de la montagne autrichienne. Il a eu un parcours de danseur classique. Il dansait au Ballet National à Vienne. Et en même temps, il a monté un groupe d'heavy metal. Parce qu'il aime bien le métal.
Un peu cliché quand même entre bûcherons et le métal.
Après, c'est pareil à Bruxelles, il a fait une école qui s'appelle Parts. Et il a commencé à faire ça. C'est un de ses premiers travaux, Sunburn Sitting, où il a eu envie de relier tout son poids de sa tradition, des danses folkloriques autrichiennes. Vous savez, les danses où on se frappe sur les cuisses comme ça, ta-ta-ta-ta, avec, avec une partie de folklore. La musique, il joue la musique, il danse, il sort sa tronçonneuse, il sculpte en même temps à la tronçonneuse, il fait tout ça à poil. nus. Mais du coup, non mais voilà, mais du coup c'est ça, c'est-à-dire
que ça interpelle vraiment.
Non mais du coup c'est à mourir de rire, je t'assure, parce qu'en fait il utilise la nudité, justement il se moque de cette espèce de modernité où, où on vous fout des gens à poil à toutes les sauces, avec une espèce de sexualisation forcément d'énormément de choses. Du coup là il a une nudité, une vraie nudité, on va dire, comme un naturaliste en fait. Donc... parfois c'était ça, c'est parfois ça peut être esthétique parce que j'ai plutôt pas mal, mais parfois c'est ridicule. Et en fait il joue, et à la fois du coup c'est doux amer. Par exemple il fait justement toutes ces danses chloriques autrichiennes où tout le monde a ces images comme ça, où normalement ils font ça en short en cuir et choses comme ça, où ils se frappent sur les cuisses, ils font de la percussion corporelle. Seulement il le fait nu, et petit à petit donc c'est drôle, c'est un peu ridicule, et finalement on voit rougir. Donc après on voit tout le sadomasochisme de ces choses là parce qu'en fait il se frappe vraiment. Donc voilà, ça c'est un petit détail. Et lui aussi il tient la route 1h15 comme ça à fond les bananes. C'est étonnant à voir, et c'est très drôle.
Et puis ce qu'on a oublié d'évoquer, parce que vu que ça se passe sur les 3 jours et que ça se passera au Volapük, dont on en parlait en off tout à l'heure, c'est qu'il y a un workshop radio là-bas, du coup.
Tout à fait. On en parle maintenant ou on attend, on fait une pause? Non, on en parle
tout de suite. On va en parler maintenant, histoire que le temps passe très vite, et après il faudra évoquer la Pléiade.
Donc un workshop radio. En fait, on a toujours eu un rapport avec Emmanuel Morera, qui était là à la création du festival. À cette époque-là, il travaillait avec moi comme administrateur de Marouchka. Emmanuel, qui était voilà un garçon qui cherchait plus longtemps un peu sa voix, et puis finalement, il a commencé à travailler avec Radio Grenouille et travailler avec la radio. Je ne sais pas si vous connaissez Radio Grenouille. Radio Grenouille, c'est une radio à Marseille qui est une radio que culturelle. Et avec Emmanuel, depuis le départ, on avait ce rapport. Donc la première année, on avait joué avec l'ordi sur les réseaux sociaux pendant tout le festival. Parce que moi, une fois que c'est parti, à part m'énerver et mort d'angoisse, j'ai pas grand-chose à foutre en fait, que d'attendre que le public rentre et d'espérer. Voilà. Donc avec Emmanuel, on avait commencé à jouer comme ça la première année. Puis après la deuxième année, on s'est dit ouais, putain, c'est plutôt pas mal. Donc on avait commencé à travailler sur le rapport, surtout se poser la question de la critique et de l'analyse. Parce qu'en fait, on se retrouve beaucoup. Mis à part là, on apprend du temps, on prend une heure, c'est clair, mais la plupart du temps on me dit présenter le festival, vous avez 3 minutes.
Voilà. Ça va être compliqué.
Non, mais c'est ça, donc c'est un problème. Et donc la radio, c'est quand même un espace de liberté. On peut se dire à la radio, encore, maintenant, en tout cas, que là je peux faire encore ce que je veux. Finalement, on n'a pas trop de contrôle, enfin ça dépend des radios. Donc on a commencé aussi surtout à travailler sur de la critique et sur cette question de, y en a un peu marre de faire que de la pub des spectacles. Mmh. Hein, de se dire venez c'est génial, venez c'est génial, et comment on peut parfois dire rentrer dans l'analyse. Et les premières années on travaillait donc du coup que sur on n'avait pas le droit de parler donc à la radio sur ces 3 jours de parler du spectacle qui allait venir, mais que ce spectacle était passé. Donc on invitait les artistes, puis on prenait les artistes le lendemain du spectacle, parce que moi pour être artiste aussi, quand vous sortez du plateau et qu'on vous pose des questions, ce qu'on appelle le bord plateau, il n'y a rien de plus terrible, parce que vous sortez de votre truc, vous ne savez même pas vraiment encore ce qui s'est passé, et on vous pose des questions. Alors soit vous avez préparé un petit truc avant, et puis vous sortez votre petit discours après, mais en fait ça manque quand même beaucoup de naturel. Donc est-ce que le lendemain, on peut avoir plus de questions, on peut rentrer un peu plus dans l'analyse, et ce qu'on appelle leur vrai rapport à la critique. Un critique, c'est pas forcément dire que c'est mauvais, mais on peut aussi dire, se permettre de dire, en tout cas Emmanuel peut se permettre de parler, de coincer des artistes, donc ça j'ai pas compris, et pourquoi ça, et pourquoi vous faites ça, et parfois de pas aimer non plus. Voilà, je pense que cette notion est importante, en tout cas on peut en parler. Donc on a cet rapport à la radio, il a évolué, on a eu une web radio, on a fait un partenariat avec Campus, et puis on a petit à petit affiné. Et puis c'est vrai qu'Emmanuel il a acquis plein de compétences dans ce domaine-là. Et il a créé un site avec sa compagne Amandine André qui s'appelle lavimanifeste.com, que je recommande à tout le monde, qui est vraiment un site entre philosophie, critique, d'art et rapport à la politique aussi, qui est assez engagé. On lui a demandé d'organiser un workshop comme ça à la Biennale de Venise, avec des gens d'une des parties de la population, dans ce rapport à la Biennale de Venise. Et du coup, il m'a proposé ça il y a 2 ans, en me disant, écoute, ça serait super autour du festival qu'on arrive à... Donc au début, on voulait travailler avec les étudiants de l'école du journalisme Ça s'est avéré très compliqué parce que c'est une époque où ils sont en partiel, etc. Mmh. Donc, l'année dernière, on a fait une première tentative d'ouvrir un petit nombre, parce que forcément, ça ne peut pas se faire à trop de gens, de 8 personnes, qui n'ont jamais fait de radio. Donc, il y a 3 jours où Emmanuel forme, c'est vraiment une semaine où alors, les gens qui participent à ça, ils ont le temps de rien faire d'autre. Donc c'est rapport de quoi vous avez l'habitude de ce que c'est à la radio, comment on monte l'émission, comment on prépare l'émission, les timings, le propos, enfin voilà tout ça, la partie technique aussi. Et puis après, le rapport de ces 2 heures d'émission, donc il y a 3 émissions de 2 heures en direct, donc il faut quand même les assurer, donc il faut les préparer. Et puis après, c'est visionner tous les spectacles, apprendre, travailler sur les parcours de tous les artistes, pouvoir. Après, ils vont accueillir les artistes pendant les 3 jours. Il y a 3 émissions en direct qui sont publiques. Vous pouvez venir assister. Et du coup, cette année, on va avoir un groupe de 8 personnes qui est composé. Ça va de 17 ans à 64 ans. Donc, on a un large panel. Parce que la dernière, on avait un groupe super chouette, vraiment génial, mais très jeune. On va dire très jeune, entre 20 et 30 ans. Donc on s'était dit voilà, mais ça manquait parfois un petit peu d'expérience de visionnage de choses, voilà. Donc cette année le panel est un peu plus large, mais juste pour revenir sur, donc je sais pas comment ça va se passer cette année, hein, ce workshop, et comment vont passer ces émissions. Donc tous les artistes, hein, c'est un truc que je prends charge avec les artistes, c'est-à-dire qu'ils ont un peu l'obligation de participer à ce petit jeu radiophonique. L'année dernière, le groupe s'est tellement bien fonctionné qu'ils se sont même retrouvés. Ils m'ont envoyé un mail il n'y a pas longtemps. Mais là, ils se sont retrouvés, ils ont loin, je ne sais pas où, et puis ils sont allés faire les émissions radio. C'est-à-dire qu'il y a vraiment. Et maintenant, ils abordent aussi la radio comme espace de création. Mm. Donc, c'est pas que de l'interview, c'est aussi de la création sonore, c'est aussi de reprendre des archives, refabriquer, comment je refabrique. Voilà, toute la partie création sonore. Donc je suis ravi, et du coup moi j'ai plus rien à faire, je suis à fond sur le workshop, à fond sur les émissions de radio pendant le festival, et du coup j'accueille des artistes, voilà. Non, c'est chouette.
Eh bien merci beaucoup. Malheureusement on va pas avoir le temps de faire une dernière pause musicale, on va parler directement de la Pléiade, parce que du coup vous êtes en lien avec ce festival directement, mais vous avez aussi votre propre programmation.
Oui, alors la programmation de la Pléiade, elle est pluridisciplinaire, donc on peut accueillir des formes inclassables dans le cadre de partenariats, notamment avec Écoute-Voix. On peut pas forcément toujours définir, parce que moi j'aime bien aussi les propositions qui mêlent plusieurs disciplines. Et cette année, il y a beaucoup de spectacles qui reposent sur le corps en mouvement. Donc ça peut être de la danse, mais ça peut être aussi du théâtre gestuel, du cirque contemporain. Il y en a déjà eu beaucoup. Puisqu'il y a déjà une belle partie de la programmation qui est passée, mais il y a aussi du théâtre, de la musique, et dans les accueils qui vont arriver, on aura après le festival Écoute-Voir, on aura par exemple une pièce de théâtre qui s'appelle « Ni les chiens qui boitent, ni les femmes qui pleurent », qui est un spectacle basé sur les écrits de Frida Kahlo, de la compagnie La Course Folle. Donc c'est mis en scène par Laurence Cordier, c'est une compagnie tourangelle.
Oui, je l'ai eu, parce que j'ai fait du théâtre un peu à la fac, et c'est elle qui s'occupait de nous.
Voilà, c'était jusqu'à l'année dernière, ou il y a 2 ans je crois, qu'elle était à l'université, au TUT, ouais. Et on l'avait accueillie sur sa création précédente, qui portait sur Annie Ernaux. Et, et là, c'est sa prochaine création. Et d'ailleurs, la première est ce soir. Donc c'est un magnifique spectacle que je vous recommande, qui sera le 31 janvier à la Pléiade. En février, on aura aussi du théâtre, et cette fois en partenariat avec le Centre Dramatique National de Tours. Donc 3 représentations d'un spectacle qui s'appelle Projet Newman, et qui porte à la fois sur la fiction, sur l'importance de la fiction dans nos vies, l'impact que ça peut avoir, puisque bon, c'est un peu le propos porte sur Victor Newman, qui est la star des Feux de l'amour, et en fait c'est une mère qui tombe amoureuse de lui et qui part et qui quitte son foyer pour essayer de le retrouver, et donc sa famille ensuite essaie de le retrouver, de comprendre ce qui se passe. Donc il s'agit d'une création également. donc on co-accueille avec le Théâtre Olympia. Et puis, alors, donc voilà, on participe aussi au Festival Ouette, qui est organisé par le Théâtre Olympia, de la danse également, avec le Centre chorégraphique national de Tours, et de la musique. Alors, pour vous donner un exemple, il y aura par exemple Mélissa Lavaux, qu'on accueille dans le cadre du Festival Bruce Mandel, donc qui associe plein de théâtre, de salles à travers la métropole, mais au-delà également, puisqu'on est à plus de 10, il y a plus de 10 participants. Et donc Mélissa Lavaux présentera son dernier album dans lequel elle revient à ses racines, puisqu'elle est d'origine haïtienne. Elle a grandi au Canada, maintenant elle vit à Paris, et en fait elle revisite tout le répertoire traditionnel d'Haïti, et à sa sauce bien évidemment. Donc voilà, je pense que ce sera vraiment un très beau concert. Et puis sinon, il y aura aussi du cirque avec une compagnie suisse, la compagnie Heinz, qui présentera un spectacle qui s'appelle Zwei. Et donc, c'est plutôt familial, c'est-à-dire que ça s'adresse à tout le monde. Donc, c'est un couple dans la vie qui retrace un peu les différences qu'on peut avoir les uns et les autres pour atteindre les objectifs, mais aussi la nécessité de s'appuyer sur son partenaire et comment atteindre ses fins. Voilà. Et tout ça avec plein de disciplines circassiennes. Donc voilà pour un petit tour. Et on finit. Alors, donc, toute la programmation de la Pléiade, c'est jusqu'au mois de mai. Après, au mois de juin, on peut avoir aussi d'autres partenariats, comme avec le festival Tour d'Horizon. Et on organise aussi notre propre festival qui s'appelle Itinéraire Bis, qui aura lieu cette année les 19 et 20 juin, et qui mêle musique et art de rue. Il y a souvent pas mal de cirque. Et ce qui le caractérise, c'est le parcours artistique qu'on organise dans le quartier, puisqu'on se laisse guider vers plusieurs propositions artistique, on ne sait pas où, et voilà, donc ce sont des petites formes, voilà, qu'on découvre et qui permettent de voir la ville différemment et de redécouvrir un quartier.
Et ben, un beau programme à la Pléiade du coup. Et comment vous contactez ou vous retrouvez sur les réseaux?
Alors, pour la Pléiade, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site de la ville de La Riche. On a également un Facebook et on peut suivre toute notre actualité. On peut venir nous voir à la Pléiade aussi du mardi au vendredi de 14h à 18h.
D'accord. Et pour le festival
Petitfaucheux.fr. Et là, vous trouvez toute la programmation du festival. Vous pouvez prendre vos billets en ligne. Et il y a des passes qu'il faut venir chercher au Petit Faucheux. Donc, vous avez un passe pour voir tout l'ensemble de la programmation ou un passe 4 spectacles.
D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup à vous d'être venus. Et puis, on vous invite tous, du coup, les 16, 17 et 18 janvier pour le festival Écoute Voir. Je te laisse peut-être annoncer une dernière musique avant qu'on y aille.
Oui, avec plaisir. Eh bien, ce sera The Stranger, Always the Sun, pardon.
How many times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? Gets to play. I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. But who has the fun? Is it always a man with a gun? Must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun.
Always the sun.
There's always the sun. Politicians and the leaders when they do things by half. But who gets the job of pushing?
ashamed enough. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough.
Radio Campus Tour 99.5
et sur internet radiocampustour.com.